Kairoua, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 31 août 2022. En direct de Washington, Idrissa Sebudia. Pour commencer, les titres. Mikhail Gorbatchev, le dernier dirigeant de l'ex-URSS, est mort. En Irak, le président se prononce en faveur de législatives anticipées après des combats meurtriers à Bagdad. Au Kenya, la Cour suprême retient 9 sujets pour statuer sur les résultats de la présidentielle du 9 août. En Éthiopie, raid aérien sur Mekele, capitale du Tigré. Xénophobie en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa condamne de récentes opérations de militants anti-étrangers. 5 migrants sont morts et 16 portés disparus au large de la Libye. Nouvelle tentative de décollage samedi pour la nouvelle méga-fusée de la NASA vers la Lune. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Le dernier dirigeant de l'ex-Union soviétique, Mikhail Gorbatchev, est mort hier à l'âge de 91 ans en Russie après une longue maladie grave, a indiqué l'hôpital clinique central dépendant de la présidence russe. Son décès a suscité une avalanche de réactions, Nanit Talani.
Né dans le sud-ouest de la Russie en 1931, Gorbatchev était le dernier leader encore en vie de l'époque de la guerre froide. Il a dirigé l'ex-URSS entre 1985 et 1991, menant d'importantes réformes économiques et politiques, connues sous les noms de Perestroïka et de Glasnost. Il a ordonné la fin de la campagne militaire soviétique en Afghanistan et laissé tomber le mur de Berlin. En 1990, il avait obtenu le prix Nobel de la paix pour avoir mis fin pacifiquement à la guerre froide. En Russie, en revanche, depuis la disparition de l'URSS en 1991, il restait une figure ambivalente. S'il est celui qui a donné une chance à la liberté d'expression d'émerger, il fut pour beaucoup responsable de l'éclatement d'une superpuissance et des terribles années de choc économique qui suivirent, une humiliation. Le président américain Joe Biden a salué un leader rare qui a permis un monde plus sûr avec davantage de liberté pour des millions de personnes. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a rendu hommage à un homme d'État unique qui a changé le cours de l'histoire et le président français Emmanuel Macron a parlé d'un homme de paix dont les choix ont ouvert un chemin de liberté aux Russes, tandis que le Britannique Boris Johnson a salué le courage et l'intégrité dont il a fait preuve pour mettre fin à la guerre froide. Vladimir Poutine a exprimé ses profondes condoléances et on verra ce mercredi dans la matinée un télégramme de condoléances à la famille et aux proches de l'ancien dirigeant, selon le porte-parole du Kremlin.
Le président irakien Bahram Saleh se dit en faveur de la tenue d'élections législatives anticipées qui permettraient selon lui de sortir de la crise son pays, secoué par des combats meurtriers entre factions rivales. Le point avec Abdulrahman Dia.
Dans un discours télévisé, le chef de l'État irakien a déclaré que la tenue de nouvelles élections anticipées en accord avec un consensus national représente une sortie de cette crise quelques heures après que les armes se sont tues dans la zone verte de Bagdad. Pour lui, ces élections garantissent la stabilité politique et sociale et répondent aux aspirations du peuple irakien. Les partisans du leadership Muqtada Sadr se sont retirés mardi de cette zone hautement sécurisée et qui abrite des institutions et l'ambassade américaine. Leur chef a dénoncé le recours aux armes contre les forces de sécurité. Ses partisans ont envahi lundi le siège du gouvernement dans la zone verte. Le leadership venait d'annoncer son retrait définitif de la politique suite à des mois de blocage. Des combats ont ensuite éclaté entre ses partisans et ceux des groupes pro-iraniens. Les États-Unis, l'ONU et la France ont appelé à la retenue. L'Irak est plongé dans l'impasse politique depuis les législatives d'octobre 2021 remportées par Muqtada Sadr, mais depuis, les leaders politiques ont été incapables de s'accorder sur un nouveau premier ministre.
La NASA a annoncé hier qu'elle tenterait de lancer sa nouvelle méga-fusée pour la Lune samedi, après l'annulation de lundi au dernier moment à cause d'un problème de refroidissement de l'un des quatre moteurs principaux sous l'étage principal. La mission Artemis 1 doit marquer le début du programme américain de retour sur la Lune.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Cour suprême du Kenya a annoncé mardi avoir retenu 9 sujets à examiner dans les recours contestant les résultats de l'élection présidentielle du 9 août, dont des suspicions de fraude et de piratage qui pourraient faire annuler le scrutin. Précision de John Lyndon.
La Cour suprême kenyane a déclaré hier qu'elle va examiner 9 questions lors des auditions sur le fond qui doivent débuter aujourd'hui mercredi. Sa décision est attendue le 5 septembre. Les 7 juges entendent évaluer si la technologie utilisée pour faire remonter les résultats depuis les bureaux de vote jusqu'au Centre national de dépouillement répond aux normes d'intégrité, de fiabilité, de sécurité et de transparence. À l'issue de la présidentielle du 9 août, le vice-président William Ruto a été déclaré vainqueur par la Commission électorale nationale avec une avance de 233 000 voix, récoltant 50,49% des suffrages contre 48,85% pour Raila Odinga, 77 ans, l'opposant historique soutenu par le président sortant. Des failles dans le système électronique ont déjà conduit à l'annulation par la Cour suprême de la dernière présidentielle d'août 2017, ce qui a été une première en Afrique avec un recours introduit par le même Raila Odinga.
En Éthiopie, un raid aérien a visé dans la nuit de mardi à mercredi Mekele, capitale du Tigré, plusieurs heures après que les autorités rebelles de cette région ont annoncé vouloir poursuivre leur contre-offensive dans le nord du pays. Les journalistes n'ont pas accès à cette région, rendant impossible toute vérification indépendante des déclarations sur les bilans de victimes. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a condamné mardi au Parlement de récentes opérations de militants anti-étrangers devant un hôpital de Pretoria. Les manifestants ont empêché l'accès à des personnes sur la base de la couleur de leur peau et de leur langue. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Les actes de non-droit, d'intimidation et d'humiliation visant des ressortissants étrangers, qu'ils aient ou non des papiers, ne peuvent être tolérés, a déclaré le président Cyril Ramaphosa, ajoutant que les Sud-Africains ne sont pas xénophobes. Un mouvement baptisé Opération Dodula, qui signifie refouler en Zoulou, est très actif dans le pays. Ces militants ont organisé des manifestations pour chasser les étrangers qui, selon eux, volent le travail des Sud-Africains. Ces dernières semaines, certains de leurs membres se sont postés devant l'hôpital Kalafong à Atterichville, un township de Pretoria. Ils ont bloqué les patients à l'entrée en fonction de la couleur de leur peau et de la langue qu'ils parlent, a condamné le gouvernement dans un communiqué. Selon les statistiques officielles, près de 4 millions d'étrangers sont présents sur le territoire, mais subissent très souvent des attaques de certaines populations noires et pauvres vivant dans les townships.
Au Niger, 75 personnes sont décédées depuis juin suite aux fortes précipitations qu'enregistre le pays. Plus de 100 000 autres sont sinistrées selon les autorités. C'est le même scénario chaque année à la saison des pluies, nous dit notre correspondant à Niamey, Abdelrazak Idrissa.
C'est la région de Maradi, dans le centre-sud du pays, qui a enregistré jusqu'ici le plus grand nombre de décès, 30 au total sur les 75 annoncés par les services de la protection civile. D'habitude, fortement touchée par le phénomène, la capitale Niamey reste pour l'instant plutôt épargnée avec 2 décès et plus de 500 personnes sinistrées. Elle est tout de même en alerte, puisque selon les services compétents, de fortes précipitations sont attendues jusqu'à la fin du mois prochain. Aussi, le niveau du fleuve à Niamey a dépassé la cote orange d'alerte, redoutant une crue qui engendre généralement des inondations. Les dégâts matériels à la date du 28 août, selon toujours les services de la protection civile, sont estimés à plus de 12 700 habitations endommagées et l'effondrement de salles de classe, de centres de soins médicaux ou encore de greniers. Ces deux bilans, humains et matériels, sont déjà au-dessus de ceux de l'année dernière à la même période. Avec ses partenaires, le gouvernement organise l'assistance nécessaire aux personnes sinistrées. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, les autorités du Mississippi ont déclaré hier l'état d'urgence sanitaire après des inondations historiques qui ont endommagé les systèmes de traitement de l'eau et laissé quelque 180 000 personnes sans eau potable à Jackson, la capitale. Le gouverneur Tate Reeves a averti les habitants et a déployé la garde nationale pour distribuer de l'eau. La minute éco, Mohamedou Humpa.
Le président du Bénin, Patrice Talon, a vanté une série d'arguments mardi pour convaincre les entrepreneurs français que le Bénin avait changé sous sa gouvernance. Il leur a demandé de venir investir dans son pays où beaucoup d'Asiatiques sont déjà implantés. Le Bénin a amélioré la justice et dérégulé la législation du travail. La justice fonctionne bien, beaucoup mieux que par le passé, a assuré M. Talon, qui est l'un des invités d'honneur de la rencontre des entrepreneurs de France organisée par le MEDEF. La Banque mondiale va donner 520 millions de dollars à la Guinée pour renforcer sa résilience économique. Ce décaissement issu des allocations des fonds globaux de l'Association internationale de développement est composé à 27% de prêts et 73% de dons et est alloué au pays pour 3 ans. Il permettra de soutenir les réformes engagées par le gouvernement et les efforts déployés en matière de gestion des finances publiques et de stabilisation du cadre macroéconomique. Le pétrole accentue ses pertes sur des craintes de récession mondiale. En Europe, il a chuté mardi de plus de 5%, affaibli par un nouveau confinement en Chine. Le baril de la mer du Nord pour livraison en octobre dévissait de 5,05% à 99,78 $. Le baril américain pour livraison le même mois perdait 4,84% à 92,31 $.
Merci Mohamedou. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le chef de la junte guinéenne déclare la CAN 2025 projet prioritaire.
Oui, c'est un décret du colonel Mamadi Doumbouya qui déclare d'intérêt national et prioritaire le programme d'organisation de la CAN 2025. En conséquence, toutes les dépenses pour l'organisation sont exécutées en urgence, dit le décret, qui annonce l'ouverture d'un compte spécial au trésor public. D'après ce texte, les réserves foncières affectées à la CAN sont déclarées d'utilité publique et toutes les transactions immobilières ou les travaux non dédiés à la CAN sont interdits sur les sites. Cette annonce est intervenue avant l'arrivée hier en Guinée d'une mission de la CAF qui devrait s'informer de l'avancement du projet sur place jusqu'à jeudi. Le chef de la junte, le colonel Mamadi Doumbouya, a nommé en mars un nouveau comité d'organisation et Vincent, l'ancienne équipe.
Affaire Paul Pogba, son club dit préférer garder le silence.
La direction de la Juventus Turin souhaite ne faire aucun commentaire sur la situation de son joueur. Paul Pogba est au centre d'une rocambolesque affaire liée à des tentatives d'extorsion présumées à son encontre. La mère du joueur et son agente Rafaela Pimenta ont dénoncé dimanche des menaces et des tentatives d'extorsion en bande organisée visant la star. Elles disent avoir saisi la justice il y a un mois en Italie et en France. Paul Pogba a confié aux enquêteurs avoir plusieurs fois été intimidé à Manchester, son ex-club, jusqu'au centre d'entraînement de la Juventus. Parmi les suspects, il affirme avoir reconnu son frère aîné Mathias, lui-même un footballeur professionnel et à l'origine samedi d'une vidéo où il a promis de grandes révélations sur Paul.
Tennis, Serena Williams, très attendue ce mercredi à l'US Open à l'occasion de sa deuxième sortie.
Ça sera face à l'Estonienne Annette Kontaveit, numéro 2 mondial. Serena Williams, qui a annoncé qu'elle arrêtera sa carrière après l'US Open, a réussi son premier match prolongeant le plaisir jusqu'au bout d'une cérémonie en forme d'hommage finalement prématurée. Dans la nuit de lundi à mardi, elle a surmonté l'émotion devant 23 800 fans qui n'avaient Dieu que pour elle, pour battre la Monténégrine Danka Kovinic, 6-3-6-3, sous les yeux de son époux, sa fille Olympia et un parterre de stars, Mike Tyson, Lindsey Vonn,
Hugh Jackman, Spike Lee, Bill Clinton, qui était président quand Williams a commencé à écrire sa légende en 1999. Serena a réussi son match. Par contre, sa sœur Venus, double lauréate de l'épreuve en 2000 et 2001, a été éliminée au premier tour, battue 6-1, 7-6 par la Belge Alison Van Lutvank.
Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, la situation est à nouveau tendue dans certains villages du territoire de Kwamou, dans la province de Maïnombe. Selon la société civile et les élus de la région, dans la journée de lundi, au moins 2 personnes ont été tuées à Machambio et à Toi. La société civile annonce aussi l'arrestation de quelques assaillants. Dans une conférence de presse tenue à Kinshasa ce mardi, 2 élus de la localité ont estimé qu'il y a une main noire derrière ce conflit. Les détails avec notre correspondant à Kinshasa, Alex Kati-Kataï.
Depuis lundi, un regain de tension est observé dans le territoire des Kwamout. Dans le groupement Machambio, le fils du chef coutumier et son chauffeur ont été tués par des assaillants. Une autre personne aurait été tuée dans les villages Toa, à 20 km de Machambio, une situation qui a poussé la population à fuir le village. Selon des informations recueillies ce mardi, tout le village s'est vidé de sa population qui a trouvé refuge dans le centre de Machambio. Guy Moussomo, élu de Kwamout, qui revient d'une mission dans la région, estime qu'il y a une main noire derrière cette situation.
J'estime qu'il y a une main noire, ça c'est dans ma réflexion. Et par rapport à tout ce que j'ai entendu lorsque nous avons reçu le couche de la population. Parce que ce couche-là n'arrive pas à comprendre comment pendant des siècles ils ont vécu ensemble et que c'est seulement en 2022 que ce groupe-là puisse prendre des armes, puisse se rebeller derrière soi-disant redevance coutumière. Alors, ce qui paye ces redevances, ce n'est pas seulement les Yaka.
Lors d'une conférence de presse organisée ce mardi à Kinshasa, 2 députés nationaux, Dekwamout et Bolobo, ont lancé un appel à une prise au sérieux de ces conflits qui risquent d'embraser toute la région. Willy Bolio, député de Bolobo.
Ces gens-là sont en train de travailler en petits groupes. Ils sont maintenant à travers tous les territoires. Et maintenant, ils sont sur la grande route de Bandundu. Maintenant, qu'est-ce que nous avons comme regret par rapport à l'agissement du gouvernement? Ils sont en train de vouloir cristalliser le conflit pour que ça reste. On tente de résoudre ici, comme c'est le cas à l'Est. On dit toujours, on a envoyé les militaires, on a fait ceci. Mais dans l'entretemps, nous continuons à vivre la même situation. Nous n'avons pas besoin d'un autre état de siège au Maïndombe. Nous voulons qu'on termine cette affaire.
Les opérations militaires lancées sur terrain produisent déjà des fruits. Quelques assaillants ont été arrêtés par l'armée dans les forêts des villages Lidouma Nsia, affirme Martin Fouta, de la société civile de Kwamout.
Ils étaient arrêtés depuis avant-hier, c'est aujourd'hui qu'on a fait un déplacement vers Kinshasa, parmi lesquels on avait arrêté un des leaders qui a les informations pouvant nous donner la cause de leur rébellion. Ils ont été arrêtés par le militaire venant de Kinshasa.
Au ministère de la Justice, on précise qu'il n'existe plus de magistrats à Kwamout et dans une grande partie du Maïndombe depuis l'assassinat d'un procureur à Yumbi en 2018 lors du conflit tribal entre les Bakende et les Banounou. Une situation qui oblige le transfèrement de tout suspect à Kinshasa pour jugement. Alex Kati-Kataï, Kinshasa, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique en RDC sur 97.4 à Bukavu.
Selon l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, le pourcentage de filles nigérianes qui se marient avant l'âge de 18 ans est passé de 44% à 30%. Toujours cependant, l'un des taux de mariage précoce les plus élevés d'Afrique, un problème que les groupes d'aide s'efforcent de résoudre avec les communautés rurales. Benoué, au Nigeria, un reportage de Timothée Obiezu. Le récit est de Michel Joseph.
Dorcy Merga, 14 ans, est la plus jeune épouse d'un clan d'Alédé dans le centre de l'état de Benoué.
Elle sert les repas et fait le ménage dans le cadre de ses nouvelles responsabilités depuis qu'elle a emménagé avec son mari, alors âgé de 17 ans, en décembre dernier. Merga est également enceinte de 5 mois et ne peut pas utiliser une bourse pour aller à l'école depuis son nouveau domicile.
En fait, je ne suis pas heureuse parce que je ne sais pas quoi faire. Mon mari a accepté que je retourne à l'école, mais à la condition que je parte d'ici en tant que sa femme.
Merga et d'autres filles de la communauté ont reçu une bourse d'études d'un organisme à but non lucratif lancé par Janet Kaatio, une crypto-investisseuse nigériane. Kaatio a mis sur pied cette organisation à la mémoire de son défunt père qui a promu l'éducation des filles dans le village. Elle a été choquée de découvrir que Merga s'est mariée et ne va plus à l'école depuis des mois. La belle-famille de Merga explique que le mariage était consensuel et que les femmes plus âgées du clan l'aident à s'en sortir. Mais Janet Kaatio estime que le mariage précoce est une préoccupation majeure dans la communauté et c'est pourquoi son association se concentre sur l'éducation des filles.
La plupart des parents n'ont pas été à l'école, alors une fois qu'une fille atteint un certain âge, ils pensent qu'elle doit être donnée en mariage. Et pas seulement pour se marier, mais aussi pour que la famille obtienne de quoi nourrir de ce mariage. Même quand nous grandissions, quand mon père nous formait, les gens nous disaient « Mais que faites-vous là ?»
L'UNICEF estime que le Nigeria est le deuxième pays où le nombre d'enfants mariés avant l'âge de 18 ans est le plus élevé au monde, juste derrière l'Inde. Les autorités affirment que l'analphabétisme, la pauvreté et les traditions locales sont les principaux facteurs à l'origine des mariages précoces. Ce mois-ci, les autorités nigérianes et l'UNICEF ont publié les conclusions d'une enquête qu'ils ont menée conjointement. Celle-ci révèle une bonne nouvelle. Entre 2016 et l'année dernière, le mariage des enfants a diminué de près d'un tiers, passant de 44% à 30%. Mais le directeur de l'UNICEF au Nigeria, Peter Hawkins, fait remarquer que parce que le Nigeria a une population croissante, le nombre total d'enfants mariés continue d'augmenter.
La population est tellement énorme que...
La population est tellement énorme qu'une augmentation en pourcentage, disons une réduction dans le cas du mariage des enfants, est une bonne chose.
Au Cameroun, Samuel Eto'o veut-il s'éterniser à la tête de la Fédération camerounaise de football ? La question se pose depuis le week-end dernier, après que l'Assemblée générale de l'instance fêtière du football camerounais a adopté la révision à la hausse de la durée du mandat du président de la FECAFOOT. La polémique est vive, nous dit de Yaoundé notre correspondant Emmanuel Jules Tap.
C'est à l'unanimité que la révision à la hausse du mandat du président de la Fédération camerounaise de football a été adoptée par les membres présents à l'Assemblée générale ordinaire.
C'est une incongruité qu'on cherche à vouloir s'éterniser à la FECAFOOT.
Abdoulaye Ado est un analyste sportif.
Le président de la FECAFOOT est élu avec d'autres. Avant d'être élu comme président au niveau fédéral, il y a... Au niveau des ligues, la ligue départementale, les ligues régionales également, qui sont des présidents. À partir de ce moment-là, la formule qu'ils ont proposée là, le président serait en haut et que les autres sont en bas comme son paillasson.
Jusqu'ici, le président de la fédération avait un mandat de 4 ans, renouvelable une seule fois.
L'Assemblée générale a-t-elle compétence pour augmenter le mandat d'un de ses membres?
Oui. Stéphane Edigui, président du mouvement citoyen et patriotique Let's Protect Our Stars. En français, protégeons nos étoiles.
En vertu de l'article 22 des statuts de la Fédération camerounaise de football voté le 13 juillet 2021, les statuts disent clairement que l'Assemblée générale est l'organe suprême qui peut à la fois élire mais aussi révoquer un président. L'article 25 alinéa 18 précise également que au cours d'une Assemblée générale, un membre peut décider, lui, de faire une proposition d'amendement. Si cela est voté à l'immense majorité des membres de l'Assemblée générale, on adopte.
Dans les rues de la capitale, les avis sont partagés sur la révision à la hausse du mandat du président de la FECAFOOT. Aubin est un commerçant au marché Mokolo à Yaoundé.
Se présenter une fois au niveau de la FECAFOOT n'est pas chose très bien. Il n'y a pas que Itofi Soukamon pour pouvoir nous diriger la FECAFOOT.
Jacques Bessala, un autre commerçant, pense le contraire.
On ne change pas l'équipe qui gagne. Personnellement, je ne vois pas son rival.
Est-ce la durée ou la pluralité des mandats qui change? La nouvelle résolution aura-t-elle un caractère rétroactif? Les précisions de la Fédération camerounaise de football restent attendues sur ces questions. Stéphane Digui, président du mouvement citoyen et patriotique Let's Protect Our Star, en français, protégeons nos étoiles.
Au lieu que les gens se focalisent encore dans ce qui peut diviser, c'est-à-dire les élections, on préfère se focaliser sur le projet qui est initié par le président actuel de la Fédération camerounaise de football.
Abdoulaye Ado, un observateur du football camerounais, voit mal une suite sereine avec Samuel Eto'o.
En 8 mois, le football camerounais a fait un bond de plus de 20 ans en arrière. Les amateurs ont professionnalisé le football camerounais et les professionnels sont venus faire la professionnalisation de l'amateurisme.
L'Assemblée générale de la FECAFOOT compte 73 membres. 66 étaient présents lors de l'adoption de la hausse du mandat du président de la FECAFOOT. Yaoundé, Emmanuel Jountap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
En Irak, 30 partisans du leader chiite Moqtada Sadr ont été tués par balles lors des combats qui les ont opposés à des factions pro-Iran et l'armée à Bagdad, selon un nouveau bilan. En outre, 570 sympathisants du leader chiite ont été blessés lors de ces combats qui ont duré moins de 24 heures, mais ont pris fin après que Moqtada Sadr a enjoint ses partisans de se retirer de la zone verte, secteur ultra sécurisé du centre de la capitale irakienne. Abdulrahman Dia a joint au Québec Sami Aoun, professeur à l'université de Sherbrooke au Canada, spécialiste du Moyen-Orient.
Il y a une polarisation assez importante dans le milieu chiite, particulièrement entre les dirigeants qui sont proches de Moqtada al-Sadr, une figure bien charismatique et connue sur la scène politique irakienne, et qui prend ses distances de la politique iranienne particulièrement, et qui cherche à former un gouvernement majoritaire, puisqu'il était le gagnant des élections avec un bloc parlementaire assez substantiel de 73 députés. Par contre, ses adversaires, qui sont pro-iraniens en général, qui lui tiennent tête.
Moqtada Sadr continue de jouer un rôle très important dans la politique irakienne. Qu'est-ce qui fait de lui un personnage incontournable et aussi qu'est-ce qui explique sa longévité dans le champ politique irakien?
Certainement, il a une masse populaire, surtout parmi les chiites, qu'on appelle généralement dans les franges les plus misérables et pauvres dans cette communauté, et qui sont autour de Bagdad, la capitale, et qu'on appelle justement Madina de Sadr, c'est-à-dire la ville de Sadr. Aussi, son aura lui vient de ses parents, surtout son père et son oncle, qui étaient des martyrs assassinés par Saddam Hussein, le président irakien déchu. Et sur ce point, il a bâti toute une popularité.
Ces dernières violences dans la zone verte traduisent-elles en fait une fragilité de l'État irakien aujourd'hui?
Certainement, la transition en Irak depuis 2003, après la chute de Saddam Hussein et l'invasion américaine, n'a pas été en toute douceur. C'est une transition très turbulente. Jusqu'à maintenant, l'Irak n'a pas pu regagner ni une paix civile, ni pratiquement une reconfiguration du système politique de la sorte que les Irakiens puissent y voir un changement qualitatifs, surtout au niveau de leur bien-être, au niveau de la corruption, mais il faut reconnaître encore que l'Irak est devenu, il est maintenant, disons, un lieu de guerre de procuration indirecte, de règlement de compte entre les puissances régionales, particulièrement avec l'incursion iranienne. Aussi, il ne faut pas oublier des incursions de la Turquie, et surtout les tentatives de couper l'Irak de sa profondeur arabe, ce que Moqtada Sadr refuse.
Sami Aoun, joint à Sherbrooke, au Canada. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedoutia, à la mise en onde, Georges Léonard Sayo, à la console, Kevin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24.